Bonjour, c'est une lettre à tous ceux qui aiment les vieux. Voilà, le 12 août 2003, 12 septembre 2003, ça fait un mois que tu es tombée seule dans la rue, en pleine chaleur, en pleine canicule, comme on dit aujourd'hui. À ce moment-là, moi, j'étais en vacances, comme beaucoup. À ce moment-là, papa et maman étaient aussi en vacances, comme beaucoup. Dès que je l'ai su, nous sommes tous rentrés et à l'hôpital. On nous a dit que tu étais paralysée. Tout le côté gauche, m'a dit le médecin. Tu avais fait une attaque cérébrale. À l'hôpital, je t'ai vu. Tu étais devenu si vieux, d'un coup comme ça, sans prévenir. À l'hôpital, je venais tous les jours te voir, mais tu ne pouvais presque plus parler. À l'hôpital, tu avais si soif. Tu disais un petit pastis, un petit puligny, mais tu ne pouvais pas, même un verre d'eau. À l'hôpital, il n'y avait pas de ventilateur pour te faire de l'air. Puis il a fallu repartir pour reprendre le travail, en espérant que les infirmières allaient prendre soin de toi. Mais les pauvres, elles sont tellement débordées. À l'hôpital, je me souviens de ce week-end du 15 août. Elle était toute seule pour tout l'étage, qui d'ailleurs avait été rouvert depuis peu. Alors, comment accepter l'idée que tu puisses rester là, seule dans cette chambre si petite et encombrée? Car à l'hôpital, vous êtes trois dans la même chambre, et il n'y a pas de place pour que nous, famille, on puisse s'asseoir à côté de toi, à côté du lit. Papy, si tu savais, je me rends compte comme c'est dur d'être vieux, comme c'est dur de rester digne dans ces conditions. Je sais que tu m'entendras pas, mais demain, je prends la route pour venir te voir. Parce que je t'aime, tout simplement. Je voulais aussi te dire que même si tu as 88 ans et que certains disent que tu es trop vieux, à moi, tu me sers encore. Je t'entends encore me raconter des histoires quand tu étais petit, quand il n'y avait pas la télé, quand tu étais à l'internat à 7 ans, quand pendant la guerre tu as rencontré mamie, quand et quand. La phrase que j'ai entendue il n'y a pas longtemps est tellement vraie. Quand ta vie meurt, c'est un livre qui brûle. Alors s'il vous plaît, vous, penseurs, économistes, gestionnaires, pourficotiers, politiques de tout poil, arrêtez de nous considérer comme des machines à profit. Mon grand-père à moi, c'est un être humain.
Oui, bonjour Monsieur Mermet, je suis Marie, je suis infirmière depuis 25 ans. C'est vrai que le reportage que je viens d'entendre me touche parce que je travaille dans un service qui n'est pas de gériatrie mais de comateux. Et c'est vrai qu'on a, on rencontre ce genre de problème et que c'est dur et qu'il y a des jours il y en a marre, mais que c'est quand même un très beau métier et qu'on aime et on le fait pas par hasard. Voilà, c'est ce que je voulais dire surtout aux gens qui font ces études pour devenir infirmière. On ne vient pas infirmière par hasard. Il faut d'abord beaucoup, beaucoup aimer les gens. Merci, monsieur, encore pour toutes vos émissions. Au revoir.
Bonsoir, bonne nuit, en fait, parce que il est 3h38. Je sors du travail. En partant au travail, j'ai écouté l'émission de ce soir, enfin de cet après-midi, sur la grève dans ce service de gériatrie. Voilà, j'ai 32 ans, je suis musicien, je fais partie des gens qui kiffent la vie, comme on dit, qui ont une vie heureuse, en fait. Et on se demande pourquoi on écoute des choses comme ça. Et pourtant, on l'écoute. Et pourquoi on zappe pas sur, je sais pas, une radio jeune qui passe de la musique, quand on entend une vieille dame en train de mourir se faire vider les poumons à l'aspirateur. Pourquoi on zappe pas? Je me pose la question, je vous pose la question, et je zappe pas. Et je l'écoute, et j'ai écouté la suite sur Internet après. Ça serait intéressant qu'on discute de ça un jour, tiens. Pourquoi on le zappe pas?
Bonsoir, c'est Christian, retraité dans la Vienne. Alors j'ai calculé, comme il y a eu 13 000 morts pour l'émission là des vieux, malheureusement, si je compte 3 000 francs par mois par petit vieux, c'est-à-dire 457 euros par 13 000, ça fait 5 941 000 euros par mois. Sur un an, ça fait 71 292 000 euros. Alors, je crois qu'avec tout ce fric que le gouvernement va pas avoir à sortir, on pourrait quand même faire quelque chose en plus pour les vieux, qui n'ont pas de possibilité de s'en sortir par la famille et autres. Bonsoir, à plus.
Bah oui, c'est une question ça, hein. Oui, c'est une question. Sur le répondeur de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37, il y a des questions qui se posent, il y a des émotions, il y a des colères, il y a des rigolades, il y a des chansons. Il y a de tout. Aujourd'hui, une rencontre absolument formidable avec Philippe et Nicole. Je vous dis rien pour l'instant. Je vous dis rien pour l'instant, c'est juste après ces messages, d'autres messages. Le répondeur, 01 56 40 37 37.
Bonjour, c'est Brigitte de l'Ouest de la France. Je suis infirmière, j'ai bientôt 54 ans. À 20 ans, quand j'étais élève, je pensais que rien ni personne ne pourrait jamais me faire arrêter mon métier à 54 ans. Je suis vraiment épuisée, fragilisée moralement. Je n'en peux plus, je vais travailler à reculons. Parce que nous avons des administratifs au-dessus de nous qui nous pressent, qui nous pressent, qui nous font faire des enquêtes quand on veut le moindre matériel, qui nous font faire des statistiques, qui nous font faire un travail administratif qui est plus important à leurs yeux que le travail de soins infirmiers pour lequel nous avons été formés et pour lequel nous sommes motivés à venir à l'hôpital. Nous, ce que nous voulons, c'est pouvoir faire des soins, faire du relationnel auprès de nos malades, être vraiment dans le cadre du soin du malade. Mais nous en avons marre de tous ces détails administratifs qui nous épuisent, qui nous découragent, parce que on nous fait toujours valoir que ça n'est jamais assez bien fait, que ça n'est jamais assez, et que nous ne savons que nous plaindre. Nous avons une direction qui est odieuse avec nous. Eh bien, on nous dit qu'on ne fait que se plaindre, qu'on est des bonnes à rien, et qu'on n'a qu'à changer de métier si on n'était pas faite pour ce métier-là. Entendre ça à 54 ans, après plus de 30 ans de soins infirmiers, d'aide aux gens, que j'ai adoré, tous ces gens que j'ai rencontrés, que j'ai aimés, que j'ai vraiment soignés avec amour, ça fait mal. Ça fait mal. C'est dégueulasse de nous faire ça. Et pourtant, on nous le fait tous les jours. J'espère que je passerai à l'antenne, parce que je suis sûre qu'il y a des centaines de filles qui pensent comme moi.
Bonjour, ici Jean-François de l'association Altensine en Dordogne. Voilà. Pour information, il y a 6 personnes qui vont comparaître devant le tribunal de grande instance à Agen le mercredi 17 septembre. Ils ont mis hors d'état de nuire un incinérateur d'ordures ménagères à Fumel, dans le Lot-et-Garonne, le 15 mars 99. Ces personnes ont posé un acte de salubrité publique. L'incinérateur pollué, l'administration et les élus étaient informés. Une plainte a été déposée contre les responsables incinérateurs, elle n'a toujours pas été traitée à ce jour. Vous pouvez venir soutenir les inculpés, de nombreux témoins, dont José Beauvais entre autres, seront entendus ce jour-là. De 3 à 5 000 personnes sont attendues. Venez nous rejoindre le 17 septembre devant le palais de justice. Il y a une animation toute la journée et nous avons vraiment besoin de mettre en évidence le problème des incinérateurs en France. Merci. Au revoir.
Je vais dire la légende de celui qui s'est enfui et fait les oiseaux, les andes se taire au cœur de la nuit. Le ciel était de velours et incompréhensiblement le soir tombe et les beaux jours, mais on ne sait comment. Comment croire aux pas pesants les soldats, quand j'entends la chanson noire de Don Pablo les rouleurs. Lorsque la musique est belle, tous les hommes sont égaux, et la justice rebelle, Paris ou Santiago. Nous parlons même langage, et le même chant nous lie. Une cage est une cage, en France comme au Chili. Comment croire, au peuple dans les soldats, quand j'entends la chanson noire.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Cléotère. Là-bas, si j'y suis, Nicole et Philippe, pourquoi pas nous?
Flight number 2, arriving from New
York. Ils se sont cachés dans un grand champ de blé. On les a trouvés au bas du chemin. On nous a trouvés au temps des vacances. L'info, je sais plus, ça m'arrive, des petits morceaux comme ça qui m'échappent. Ils se sont connus au bonjour de France. Ils se sont connus dans le brouillard. Ah oui. Oui, parce que moi, je veux pas chanter, comment je veux dire, ce qu'on écrit. Mais je veux pas copier, parce que copier les chansons de quelqu'un, c'est piquer sa place.
On n'a pas touché de beaucoup d'intelligence, mais on l'a quand même. On n'a pas fait du tout lecture, on n'a pas fait du tout l'écriture, on n'a pas appris l'alphabet, on vit en alphabet. On est quand même dans un monde à part.
Et pourquoi encore à l'heure actuelle on nous ignore? C'est ça le vrai combat. Je voudrais que ça s'arrête, que les gens ils ne fassent plus la différence avec les handicapés mentaux, physiques, et qu'ils essaient d'être avec nous, quoi, à l'heure actuelle, quoi.
Les handicapés, souvent, on les voit très souvent enfermés, très à l'intérieur, mais pas très intellectuels. Mais ils sont intellectuels. Ils sont intellectuels, mais un intellectuel spécial. C'est pas un intellectuel comme tout le monde. C'est un intellectuel qui se développe par l'agrandissement de la vie. Et c'est ça qui fait souffrir ces handicapés. Alors, ils essaient de nous regarder avec une espèce de misère lourde à travers les yeux. Et souvent, je pourrais dire, on n'est pas battu parce qu'on se bat, mais on est battu par cette force qui ne veut pas nous donner de l'intelligence. Et qu'il faut qu'on la cherche nous-mêmes. C'est comme la chasse au trésor. Vous voyez ?
Allez, d'accord, siffle. Siffle, Coco. Allez, Jaco. Et pour coton ? Ah. Vous voyez ? Il dit bien, Nico.
Intellectuel, mais pas comme tout le monde. Quand même dans un monde à part. Il faudrait qu'il y ait plus de différence ou que la différence soit différente. Il y avait un groupe de réflexion sur les handicapés qui disait « ensemble, tout simplement ». Vous avez compris que Nicole et Philippe sont des handicapés, des handicapés mentaux. C'est avec eux qu'on va passer cette heure. Ils ont de quoi être inquiets, tous les deux, Philippe et Nicole. Dans ce monde tel qu'il va aujourd'hui, cette société que nous construisons ou que nous déconstruisons, allez savoir, qui est une société de rivalité et non pas une société de solidarité. Et évidemment que ça fait du monde à part, ça fait autant de monde à part. On va passer une heure avec eux deux. Ils sont absolument formidables, vraiment formidables. Et parce qu'on est tous handicapés, ça on le sait bien, on est tous handicapés, même si on n'est pas handicapé, on est handicapé. Vous entendez la voix de quelqu'un qui ne peut pas voler, par exemple. Je ne peux pas voler, je peux vous le dire. Je ne peux pas nager très longtemps sous les flots. Il y a des tas de choses que je peux pas faire et pas faire longtemps, en tout cas. On est tous handicapés, mais on l'ignore. Et dans ce monde où la rivalité prévaut sur la solidarité, il y a vraiment de quoi être inquiet. Et pourtant, Comment entrer en relation? Comment faire que ce monde à part dans lequel croient vivre Philippe et Nicole ne nous soit pas aussi étrangers? Peut-être qu'on peut les rejoindre par l'enfance. C'est un des moyens que je vous propose, en les écoutant avec des oreilles d'enfant, ou par d'autres moyens, comme vous voulez. En tous les cas, en étant, pour une fois, très attentif à ce monde à part. C'est comme ça que, inspiré par Philippe, Claire Auter a titré ce reportage.
Allez, Jaco, t'aides pour coton? Ah, vous voyez?
Il est bien, Nicole.
Ah oui, hein. Allez, d'accord, siffle, Coco. Allez, Jaco. Ah, vous voyez?
Dans sa grande cage, il a un miroir, pourquoi?
C'est pour se désennuyer, quoi. Pour qu'il voit qu'il est deux, quoi. Ah oui, hein? Quand Philippe, il est du matin, c'est lui qui le change. Et puis, quand Philippe, il part au travail, c'est moi qui le change, quoi.
Il est tout noir, et puis il a un beau bec orange, hein. Et puis, il a les yeux tout maquillés en jaune. Et alors, il cohabite, là, avec...
Mais ça, c'est des colombes, que tu
dis. Enfin, pour dire, ce sont des oiseaux qui nous tiennent compagnie. Qui tiennent fidélité dans les stress, l'angoisse. On sait que quelque chose nous attend pour nous désangoisser, vous voyez. On essaie de vivre malgré ça, quoi. Moi, c'est handicap mental. Peu de retardement à la naissance, quoi. Mais Nicole, c'est physique, c'est son handicap. Au niveau de ses jambes, mais...
Voilà. Donc, je suis obligée d'attendre Philippe. Quand il est du matin, il peut me sortir un petit peu. Quand il est de l'après-midi, on essaye un maximum de sortir, de sortir de notre solitude, si vous voulez, quoi. Parce que on a une drôle de solitude vis-à-vis des gens normaux, quoi, si vous voulez, quoi.
Quand on vit avec un handicap, ce qu'on appelle un handicap dans le monde entier, je pense que c'est toute la terre entière concernée par ce système d'handicap qui est 50-50 dans le monde. Il faut quand même vivre avec. Car si aujourd'hui il y a un vrai décalage avec les gens qui sont handicapés, qui savent ni lire ni écrire et qui peuvent pas se déplacer, c'est quand même un système de blocage. C'est un combat, quoi. C'est un combat. Parce que moi, je sais que c'est très intéressant, quelqu'un qui est handicapé, justement, parce que lui, il veut se mettre à la place des gens qui savent tout.
Parce que vous croyez que quand on n'est pas entre guillemets handicapé, on sait tout?
Moi, j'y crois beaucoup, ça. J'y crois beaucoup parce que je sais qu'il y a des gens qui souffrent d'handicap mental ou physique, surtout mental, qui parlent, et les autres qui sont en face, rigolent un peu parce que c'est obligé.
Ils se mettent pas à notre place, mais on n'a qu'une vie sur Terre. On a qu'une vie. Alors, je comprends pas qu'à l'heure actuelle, on fait une différence avec l'enfant handicapé et les gens normaux. Et pourquoi encore à l'heure actuelle, on nous ignore? C'est ça, le vrai combat, je voudrais que ça s'arrête, que les gens ils ne fassent plus la différence avec les handicapés mental, physique, et qu'ils essaient d'être avec nous, quoi, à l'heure actuelle, quoi.
Intellectuel pas comme tout le monde, comme dit Philippe, c'est pas seulement intellectuel pas comme tout le monde, c'est aussi un combat. Voilà deux personnes qui luttent contre l'indifférence, contre aussi la différence, contre un mur d'incompréhension. C'est la tête et les jambes tous les deux, hein. Lui c'est la tête. Il a eu un problème à la naissance, lors de l'accouchement. Pour ce qui concerne Philippe et Nicole, elle, c'est les jambes. Elle a les jambes handicapées, voilà. Et ils vivent ensemble. Et ça se passe à Granville, dans la Manche. Et c'est là que Claire les a rencontrés.
Oh, c'était un beau mariage, quand même. Oui, oui.
Moi, j'ai dans un restaurant à hauteur de Falaise, sur la côte, ça, à quelques kilomètres de chez nous.
On s'en est bien retiré parce que on s'en est bien sorti parce que moi.
C'est marié le 22 juillet.
Là, c'est une photo de mariage, là, juste au milieu, là.
Nicole, tout en blanc.
Justement, je voulais me mettre en robe, mais à cause de mon handicap, j'ai pas pu, parce qu'on avait peur que je tombe, à la mairie, que je tombe à l'église. Jaco, non! Des chaussures orthopédiques avec des appareils.
Ça te soutient les mollets?
Ça me soutient les mollets, la cheville, tout quoi. Alors il faut que je porte l'été comme l'hiver. Heureusement qu'il y a le pantalon. Je cache mes appareils comme ça, ça fait pas handicapé comme ça. On a eu un très beau mariage. Tu vois, c'était là.
Quoi, Miguel, tu cherches?
Non, Frédéric François.
Le problème, c'est qu'on a beaucoup de
c'est celui-là qu'on a mis, voilà.
Laissez-moi vivre ma vie.
C'est ça, hein?
Je pense que c'est celle-là parce qu'elle nous a vastement touchés.
Le
mot laissez-moi vivre ma vie, elle nous a ça fait rire, non?
Laisse-moi vivre ma vie.
Je pense que c'est celle-là.
Ah,
je suis certain que c'est cela. Donne moi yol.
Je vais me mettre celui qui ne ressent que de chagrin. Laisse-moi vivre ma vie. Et
c'est celle-là.
C'est la chanson de votre mariage?
Oui, c'est la chanson de notre mariage qu'on a préférée, quoi, parce que on savait pas trop si on devait mettre de la musique, alors le prêtre de Saint-Nicolas, enfin, ici, près de chez nous, là, cette église, nous a dit, ben oui, ça marche, on peut mettre un laser à la sortie, un CD à la sortie de votre mariage, pour marquer le coup du mariage, quoi.
Je suis
persuadé que
c'est gentil. Je peux que nous vivons ensemble.
Parce que c'est une chanson qui touche tes sentiments, quoi. C'est une chanson qui fait voir qu'il y a quelqu'un qui
vit. Vivre ma vie.
En tout cas, c'est vrai. C'est toi qui chante bien. Mais pour dire le mot, Nicole, elle souhaiterait, enfin, je dis aujourd'hui, devant Claire, elle souhaiterait un jour rencontrer Frédéric François à l'Olympia. Elle en serait très, 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 très ravie de le voir un jour. Surtout lui, parce que bon, elle le verrait tout de suite, elle pleurait de larmes, parce que c'est quelqu'un qui, Frédéric François, qui touche quand même, il a quand même touché une bonne partie de la population, plusieurs millions de Français, aussi bien des que l'étranger. Mais il est clair, il est franc, pour dire le mot. C'est vrai, c'est très, très chanteur. Là, n'entends plus, là, faut que tu chantes ou quoi?
Ça y est, fini. Ah, Jaco. Ah. Ah oui, hein.
Je m'appelle Philippe, je vais avoir 49 ans à la fin de l'année prochaine. Je suis né le 31 décembre 1954, à minuit, à Granville. Mon père était maçon. Ma maman, dans ce temps, elle était... Ben, elle travaillait dans les cantines, faisait à manger pour les élèves, quoi. Je suis l'aîné de la famille. On est 4 enfants, sauf une petite sœur qu'on a perdue, quoi. Bon, il est vrai que moi, je suis venu au monde avec un handicap. Puis quand je suis venu au monde, bon, je suis venu au monde avec le cordon autour du cou. On m'a mis dans une couveuse, étant bébé. J'étais noir, comme la pochette. Puis j'ai failli mourir, quoi. Ils m'ont sauvé, ils ont fait tout pour me sauver, parce que mes parents m'aiment beaucoup, comme moi je les aime. Mais tout le monde a peur de ça. Tout le monde, ce choc-là, ça, on ne s'attend pas au choc. Quand le grand est arrivé, on en pleure. C'est comme quelqu'un qui perd son frère. Et moi, le fait d'être au monde et d'être comme ça, on n'a pas touché beaucoup d'intelligence, mais on l'a quand même. On n'a pas fait du tout de lecture, on n'a pas fait du tout d'écriture, on n'a pas appris l'alphabet, on vit en alphabet. On est quand même dans un monde à part. J'ai été chez ma mère longtemps, mais déjà mes parents, ça les embêtait de me voir comme ça, surtout ma maman. Ça l'a fait les souffrir d'ailleurs. C'était peut-être même pas très bon pour le père. Je m'en rendais bien compte, il faut bien dire la vérité. Moi, il fallait que je le supporte, quoi. Et je me suis dit, est-ce que je vais être aimé? J'avais pas du tout l'impression d'être grande connaissance, quoi. J'étais plus petit que connaissance, quoi. Mais bon, par la force des choses, je me suis fait connaissance. Et là, je me souviens encore, quand j'étais petit comme ça, j'étais placé dans un parc à sable. Et je dormais avec des enfants qui avaient le même handicap, quoi. Et c'était Madame Arnaud qui tenait cette grande maison-là, ce qu'on appelait la maison d'accueil pour les enfants handicapés, quoi. Les enfants retardés. Tout petit, j'ai été placé en institution. Jusqu'à l'âge de 18 ans. Parce que ça s'appelait les papillons blancs.
Et en fait, tu n'as jamais été scolarisé?
Non, à part le travail. À part le travail.
Et donc, t'as pas appris à lire et à écrire?
Ben non, puis c'est ce que j'aurais voulu. Je ne comprends pas qu'en tant d'éducateur ou d'éducatrice, on n'a pas forcé à me faire lire, quoi. Dès le début, quoi. À ce moment-là, aujourd'hui, je sais que je saurais lire et écrire, je pourrais passer mon code.
Mais ici, Philippe, dans ton appartement, des livres, il y en a?
Ah oui?
Et alors ces livres, qu'est-ce que tu en fais de ces livres?
Si tu veux, Claire, je m'intéresse à des choses qui sont pas comme les autres, mais qui prennent du temps. Si tu veux. Je veux voir quelque chose d'écrit, je veux essayer de le lire, je veux vouloir écrire quelque chose, ça m'arrive. Ben, je suis obligé d'arrêter parce que je ne peux pas lire.
C'est surtout ça qui me rend malheureux, c'est pas le reste de la vie. Le reste de la vie, je sais que je vois bien ce qui va, ce qui va pas, autour de moi quand je marche. Le reste, c'est l'esprit, hein, c'est le savoir-faire.
Tu peux m'en chercher un livre ?
Je vais regarder Claire. Je ne sais pas de bien, non. C'est beaucoup de bien, le livre doit faire, je crois.
Ou alors, ce serait une école qui l'aurait le livre. Hein. Des fois, je garde des images, ouais, je m'amuse à faire des dessins.
Ouais. On a beau être handicapé.
C'est toi qui l'as là, le livre du col ?
Non, c'est pour moi qui l'as.
Là, on l'a prêté, il faudrait que le rende.
Toi, Nicole, tu sais lire,
hein ? Ah, moi, je sais lire. Comme ma nièce m'écrit, je lis ses lettres, tout ça. Chère Nicole et Philippe, je vous souhaite un bon et une heureuse année 2001. J'ai eu une trottinette et un ballon, une sucette. Sucette, c'est ça ?
Montre ?
Ah. Et une canne, c'est ça ?
Non, et un carnet.
Un carnet, oui, voilà, un carnet. Gros bisous, Guillaume. Oui, je sais dire.
Demain, on parlera du handicap, des handicapés, des conditions, des chiffres et des problèmes et du retard français par rapport au handicap et aux personnes handicapées. Mais aujourd'hui, on a voulu avec Claire Autaire d'abord faire connaissance avec ces deux oiseaux qui ressemblent à leurs oiseaux. Il y a deux colombes, vous avez entendu, et un ménat musicien chez eux dans leur petit appart à Granville, avec ces mots extraordinaires. Hein. Philippe a une façon de s'exprimer, plus petit que connaissant, intellectuel, mais autrement. Et puis cette expression qui revient tout le temps dans la bouche de l'un ou de l'autre. On a beau être handicapé.
Je m'appelle Nicole, j'ai 34 ans. Je suis née à Souilly-sur-Roche, dans la région parisienne. Quand j'étais petite, on m'a placée dans une famille d'accueil. Parce que justement, ma maman ne pouvait pas m'élever parce qu'elle n'avait pas assez d'argent. Puis on est 8 dans la famille, par une sœur et un frère que j'ai retrouvé. Mais autrement, je ne connais pas les autres frères.
Qu'est-ce qu'elle faisait ta maman ?
Travailler dans un bar et puis dans un restaurant, quoi. C'était bon à tout faire, quoi, la pauvre femme, quoi. Donc elle pouvait pas s'occuper de ses enfants.
Et ton papa ?
Ah, mon papa, je l'ai pas connu.
T'as une photo d'elle ici ?
Oui, elle est dans la chambre.
Ah, ben, il y a Philippe qui apporte la photo. Elle te ressemble, tu sais ?
Ah bon ?
Ah oui. Ah.
Après, on m'a placée dans un hôpital psychiatrique pour voir si j'avais pas des séquelles au niveau de la tête, niveau mental, tout ça, quoi. Parce que quand je suis arrivée de naissance, je suis arrivée avec un handicap. C'est un genre de polio, c'est une... un genre de polio, quoi. Alors, je suis née avec une jambe qui boite un peu, puis un bras qui a du mal à fonctionner. Ah, l'assistance sociale a dit comme ça, tiens, faut qu'on la mette dans un centre. Je marchais pas du tout. Je marchais, j'étais en fauteuil roulant, quoi. Quand je suis arrivée à Vieux-Boucau, à 3 ans, c'est là qu'on m'a appris à marcher, qu'on m'a appris à monter les escaliers, qu'on m'a appris à faire beaucoup de choses. On apprenait surtout à écrire, à lire, à compter. J'ai vécu jusqu'à 14 ans. Et j'ai bien vécu dans ce centre-là. J'étais heureuse. Hein. J'ai quitté parce que ma maman, elle était malade, quoi.
Parce qu'elle, elle venait te voir dans le centre.
Elle venait me voir tous les Noëls, tous les Pâques, elle venait me voir. Nicole, c'était tout pour un an.
Alors, donc, t'es resté des années dans ce centre d'accueil.
Et un jour, l'assistante sociale est venue à Vieux-Boucau pour dire à la directrice, il va falloir qu'on enlève Nicole de chez vous. La directrice, elle a dit, bon, tu vas être obligée de partir. Eh oui.
Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est les séparations. Parce que ça fait pleurer là-dessus. C'est une séparation.
Ah, Jaco, t'es pour coton? Vous voyez? Il est bien, Nico.
Tu quittes ce centre à 14 ans, tu viens ici à Granville, et tu es placé où alors?
Mais je suis placé dans l'IME, et je suis resté jusqu'à 20 ans à peu près. C'est un centre où il y avait plein d'handicapés, où il y avait plein d'handicapés un petit peu de tout, quoi. Alors, je me suis dit dans ma tête ce que j'attirais, parce que c'est vrai que je ne suis pas tellement handicapé à ce point-là, quoi. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? J'allais dans un atelier d'apprentissage, alors. On faisait de la cuisine, on faisait du repassage, on faisait de la couture. Même je repassais le linge du directeur de l'IME, alors. Ça va loin, puis même cette dame-là, à cette époque-là, c'était la femme du directeur. Elle abusait de ma situation parce que quand il y avait des visites, des gens qui venaient visiter l'atelier, et elle, ce qu'elle faisait, elle planquait son linge pour pas que les gens voient que je repassais son linge, quoi.
Tu étais payée pour le travail que tu faisais?
Non, j'étais pas payée du tout. Pas du tout. Et j'avais des migraines atroces, même à vomir. J'étais dans le lit et tout. Elle venait à ma porte, elle venait sonner à ma porte. Elle dit, hop, tu vas t'habiller maintenant, puis tu viens avec moi, tu vas aller à l'atelier. Et puis ça va passer comme ça. La migraine, elle connaît encore plus. Alors donc, j'étais mal respectée à l'IME. J'ai pas été heureuse. C'est un mauvais souvenir pour moi que je garde là. Parce qu'il y avait des fois, je me dépêchais. Que j'ai peur de ton retard, et des fois je tombais en vélo, et quand je tombais sur le poignet, et puis que je disais à la monitrice, je suis tombée avec le vélo, je me suis fait mal, elle disait, mais c'est pas grave, tu vas aller repasser, et puis j'avais plein de, je saignais de partout, quand j'avais la main presque en sang, quoi. Ils sont pas venus dans l'idée de se dire, tiens, on va passer une radio, quoi, ce soir, pour voir si c'est quelque chose de cassé.
Et aujourd'hui, tu as des séquelles de tout ça?
Oui, des problèmes de main épouvantables, quoi, de poignets épouvantables, des cartilages vachement abîmés, sur les deux côtés des deux bras, quoi. Par les chutes de vélo aussi, par avoir travaillé, trop dur, quoi.
Même, je me suis cassé mon pouce, j'avais des attelles, et avec ces attelles-là, le lendemain, il fallait que j'aille repasser le linge. Et en plus de ça, avec ça, on mangeait pas beaucoup, avec ça. Alors. Elle nous était vraiment riche, cette dame-là, parce qu'une cuillère de riz, une cuillère de pâtes, des pâtes à l'eau qu'on mangeait. Moi, je me sentais comme une esclave, parce que c'était moi qui faisais tout.
Moi, quand j'y allais, moi, ce qui me gênait le plus, c'est que... Quand je voyais Nicole avec un éducateur derrière qui passait le soir surveillé, bon, pour voir vraiment ce que faisaient les filles, c'est... Bon, dans un sens, c'est bien, c'est pas bien. Je sais pas. Moi, je suis manipulé par un patron. Nicole était manipulée par des éducatrices ou ces gens-là, quoi. Donc, quand les années passent comme ça, ben, c'est du temps perdu.
Aujourd'hui, tu penses que c'est toujours comme ça, dans ces IMP?
Ah oui, moi je pense que c'est encore plus pire que...
Je les vois, les filles, des fois, moi, parce que viennent faire les ménages dans des usines. Une toute petite et les autres comme ça, un grand sac poubelle sur le dos. Toute petite comme ça. Moi, je travaille à un poste de vitrage. Ils passent juste derrière moi pour faire le ménage dans les toilettes. Et ils revendent leur camion, ils sont mis dedans, ils sont derrière, ils sont rangés. Ils descendent avec le seul, leur balai. Quand je les regarde, ben moi je les regarde différemment, parce que différemment des autres gens qui les regardent. Mais je ne sais pas quoi dire, je suis bloqué. Ils n'ont pas vraiment le choix, ils n'ont pas le choix. Bosse quoi, mais qu'est-ce qu'il leur reste derrière? Est-ce qu'il y a vraiment de l'intelligence qui peut développer? S'ils veulent de l'intelligence, avec qui parler? Moi, je trouve, moi, franchement, je préfère le dire à clair aujourd'hui, je pense que les filles, surtout, sont un peu serrées, quoi. Ils sont serrées par des gens qui les commandent, et je pense qu'ils n'ont pas le droit de s'exprimer. Parce qu'ils sont pris en charge par les institutions, on le fait travailler. Il va falloir qu'elles couchent de bonheur pour le lendemain, il va falloir qu'elles disent qu'elle aille, il va falloir qu'elles disent qu'est-ce qu'elle a rencontré ce soir. Mais c'est ça qui se passe en ce moment. Et c'est tout les handicapés qui sont surveillés par des éducateurs, des chefs, quoi. Et puis derrière ça, il y a le grand directeur. Il y a le juge aussi qui décide de faire serrer un petit peu ces endroits-là aussi.
Ouais, ce qu'on vit, on vit, hein.
En écoutant Philippe, je peux pas m'empêcher de penser à l'art brut. Des gens du buffet qui a mis en avant les productions artistiques, picturales, disons, de ceux qu'on considère comme des handicapés mentaux ou des fous, ce qui est tout à fait différent. Hein. La folie, c'est autre chose que l'handicap mental. Mais je me souviens de la fracture que ça a été dans le monde de l'esthétique, dans le monde de l'art, que la découverte des peintures, des propositions plastiques, des expressions, des recherches d'expression de ce monde-là. Ça a bouleversé notre façon de voir les choses. On oublie aujourd'hui que ça a à ce point bouleversé nos certitudes, notre normalité, notre ordre. Ça a apporté un désordre extraordinairement salutaire, mais pas d'une façon jolie, folklorique, hein, comme nous voyons trop souvent les autres, comme disait Paul Valéry, comme des peuples de fantaisie, non? C'est souvent et très souvent le fruit de souffrances terribles qui cherchent à sortir, qui cherchent à se dire, qui cherchent à s'exprimer, parfois d'une manière brutale, souvent d'une manière forte comme ça. Et dans les mots de Philippe, on retrouve ça. On trouve cette souffrance, cette volonté d'exister, tout simplement, tout naturellement ensemble.
Bah, j'ai été pris en main pour le travail, mais j'ai pas été assez pris en main pour la lecture, quoi. J'ai pas été assez pris en main non plus pour l'écriture, et puis bon, surtout pour l'alphabet en premier temps.
C'est-à-dire de, tu n'as pas appris à apprendre?
Enfin, j'aurais pu apprendre si on m'apprenait.
Alors, les enfants avec qui tu étais dans cette institution, ils étaient handicapés lourds?
Ah oui, avec un handicap assez lourd au niveau de l'handicap. Si tu veux, ils ne savaient rien. Ils avaient simplement le regard, quoi, de ce qu'ils mangeaient, dans ce qu'on leur donnait. J'ai découvert que par moi-même. Ce qui fait que j'étais dans l'institution qui endormait le cerveau. Mais j'ai connu que ça. En 76, j'ai commencé à travailler à Langreville. Dans la menuiserie, j'étais plus d'une vingtaine d'années, oui, à peu près 20 ans dans une menuiserie. On m'a placé au travail. Hein. C'est quelqu'un qui m'a traité bleu. C'est pas moi qui navisais ma vie, c'est les institutions qui navisaient ma vie. Et c'est eux qui manipulaient ma vie.
Toi, t'aurais rêvé de quoi?
Ah, si j'étais pas comme ça, j'aurais plutôt musicien, quoi.
Artiste.
Voilà. Si j'avais pas été comme ça, ce serait certain que j'aurais eu mon permis depuis longtemps. J'aurais moi aussi travaillé dans des groupes qui ont des problèmes difficiles aussi, dans des centres, quoi. Mais en regardant les garçons et les filles handicapés mentales, d'un autre regard, quoi, qui n'est pas le regard d'aujourd'hui, quoi. Le regard différent. Je suis bien là, je porte une chemise, et je voudrais vous rigoler. Voilà. Je voudrais vous essayer de rire, quoi. Qu'on arrête d'être triste, quoi. Mais c'est vrai que quand on a un handicap comme ça, c'est difficile de vivre avec ça. C'est dur, hein, parce que c'est pas un point de vue de vie, quoi, pour moi. C'est quelque chose qu'on souffre énormément, quoi. Ça. J'aime bien entendre ce nom.
C'est beau, hein?
C'est beau parce que ça m'évolue. Ça évolue quelque chose. Si vous allez à la messe, vous allez à une chorale, vous attendez le clochonner, pour moi, c'est un espèce de rêve de chacun qui travaille ses esprits tout le jour. 24 heures sur 24. C'est beau, hein? C'est vraiment beau, je dirais même c'est éternel d'entendre le clochonner. C'est éternel, c'est quelque chose qui nous donne un moment de liberté, d'expression, de respirer. Et des fois, ça nous arrive d'aller dans des endroits, mais vraiment dans les plaines sauvages. Il y a la mer, vous avez le sable, le blé, enfin le blé, l'herbe, les dunes. Et là, je fais les vides de mes problèmes, je pose mes pieds sur le sable, je regarde côté mer, et je me dis à moi-même, mais qu'est-ce que j'ai fait de mon adolescence, mais qu'est-ce que j'ai fait depuis tout ce temps-là? Mais c'est tout, mais ça reste que d'intelligence. C'est pas une intelligence comme les autres, c'est une intelligence
on va dire, fort développement. Hein. C'est une force à développer, fort développement, j'appellerais ça. C'est, il faut forcer le développement de quelqu'un qui est handicapé pour voir qu'est-ce qu'il a dans lui, mais qu'est-ce qu'il angoisse, qu'il ne peut pas faire plus fort que lui, de se donner davantage d'esprit, pourquoi être né comme ça, être venu au monde comme ça, tout le temps, je me sens différent, même avec les collègues avec qui je travaille.
Tes collègues au travail, ils ont du mal à comprendre.
Bah oui, parce qu'on vit pas... Je les fais beaucoup rire, moi. C'est qui me voyait. En fait, quand je les amuse, quoi. C'est, j'amuse les gens intelligents. Du lundi au vendredi, c'est une semaine formidable dans une société, parce que là, je travaille avec trois gars. On m'appelle Bébert, t'as pas encore compris. Ça, c'est désobé, ça va sur l'autre palette. Alors, je fais exprès, moi. Je m'en vais dans le mauvais sens, quoi. Je fais semblant, quoi. Je fais un peu l'acteur, quoi. Je me dis que je le fais respect pour voir ce qu'ils vont me dire. Mais moi, je manque d'informations, justement. Je manque d'écoute. Je manque de... En fin de compte, j'ai besoin d'être élevé, quoi. Mais à savoir, au moins, un progrès, quoi, quand même. Donc, je souffrirais déjà moins. Enfin, j'arrive à lire les lettres une par une. Hein. Comme deux, ça, je sais plus quoi.
Deux, ça me dit, voilà.
Là, ouais. C'est moi, c'est que par étapes. Je lis comme un enfant, finalement. Je sais pas, moi, je n'écris pas bien, hein. J'écris très mal. Mais je sais pas, je peux écrire... Coca...
Parce qu'il y a un acte à faire, là. Mm-hmm.
Coca... Une fois que c'est parti, j'arrive, quand même. C'est un moment d'étranglement qui se passe, là, qui va m'enterrer le noyau, puis... En ce coup, ça y est, je ne sais plus rien, quoi. Je reviens au monde, quoi.
Tu reviens au monde?
Je reviens au monde. Je reviens au monde à chaque fois, quoi. Donc, j'étouffe. Et dès que je vais avoir un repos, je vais m'intéresser à quelque chose. Ça va durer 2 semaines, 3 semaines. Hop, tout se referme.
C'est parce que tu n'as pas appris à apprendre.
Voilà, c'est ça.
Allez, d'accord. Siffle, Coco.
Ah, Jaco, et pour coton? Ben, ah, oui.
Qui n'a pas ressenti ça? Un moment d'étranglement qui vient m'enterrer le noyau. C'est extraordinaire, cette phrase de Philippe. Vraiment? Non, on est dans l'ininventable. C'est pour ça qu'il a tout à fait raison de dire que c'est une intelligence pas comme les autres. Et c'est extraordinairement précieux. Cette phrase-là, vous ne l'aviez jamais entendue de votre existence. Voilà de quoi on se prive, je parle aussi de moi-même, en créant des différences, en s'enfermant dans la normalité. Au lieu d'avoir le talent, quoi, d'écouter tout simplement, d'aller vers les autres. C'est une vieille histoire, très très vieille histoire, sauf qu'elle est menacée aujourd'hui, cette quête de la solidarité, cette quête de l'autre, encore une fois, j'insiste, sur ce monde de rivalité, de compétition, et où nous sommes, où nous nous contraignons, voilà des bonheurs, voilà des enchantements, voilà des surprises qui sont menacées.
Oui, je suis rentré dans une usine en 76. Bah, j'ai eu ma médaille de menuisier, quoi. Ça fait 8 ans que j'ai eu ma médaille, j'ai travaillé bien longtemps avant ça, quoi. 20 ans de maison, il faut avoir une médaille, il faut avoir 20 ans d'usinage. C'est dur parce que c'est du travail de chaîne. Mettre des fenêtres sur palette, mettre des lattes d'écartement entre les fenêtres. Voilà la chaîne aussi avec... On a un bout de pistolet avec une visseuse et puis visser les crémantes pour préparer les ferrures. Toute la journée, matin, soir, on n'a pas de cantine. Donc on mange notre casse-croûte. Et des fois, on finit à 9h, un quart du soir. Moi, je dois toucher dans les... presque 7000 et des poussières.
Qui m'a apporté ton bulletin de paix? 6876,92. C'est une paix correcte.
Le problème n'est pas là, mais le problème, c'est la tutelle. Ouais, curatelle renforcée. C'est-à-dire que, non seulement je suis pas maître de mon argent, c'est eux qui mettent l'argent en fonction de ce qu'il y a besoin. C'est une commission qui passe au juge.
Et toi, t'as combien par mois, alors?
Par semaine? Ben, dans les 60 euros.
C'est-à-dire que sur tes 6 800 francs, tu touches 600 francs et tout le reste de l'argent, alors il va sur un compte.
Placé. Il est placé sur un compte spécial.
C'est lui qui touche le chèque de mon entreprise. Ouais. Ça, c'est vrai, c'est un peu bête. Hein. Moi, c'est vrai que je suis pas capable de m'en occuper trop parce que c'est pas lui à écrire. Il faut payer le loyer, il faut payer le téléphone.
Et que moi, c'est plus bien que lui parce que moi, j'ai que 60 euros pour tout le mois. Moi, je suis total, moi aussi. Par mois, d'argent de poche, j'ai droit à 60 euros. Et d'argent de nourriture, ben, j'ai que 300 francs de nourriture tous les mardis, quoi.
Toi aussi, alors t'as de l'argent qui est placé.
Placé.
Mais auquel tu peux pas toucher.
Que je peux pas toucher. Ben, je cours, non. C'est fort, hein.
Le problème des handicapés, c'est qu'ils passent tous sur côté, là. Tous.
Si on veut se faire plaisir à acheter un gros cadeau, par exemple, ben, il faut demander à la tutelle, quoi. Il faut. On va avec un bon comme ça.
Du bon d'achat.
Là, c'est un bon de vêtements, là, je te demandais.
Autorisation d'achat numéro temps. Nicole est autorisée à l'achat de vêtements femmes pour une valeur de 100 euros maximum. Signé, délégué à la tutelle.
Ça fait la honte, parce que quand on montre ça au magasin, on est pris pour une handicapée mentale.
Ouais, ce qu'on vit, hein. Bon, c'est vrai qu'il faut faire avec, mais le problème, c'est qu'on peut pas faire plus que nos prétentions, quoi, parce que... Et voilà, faut repasser devant les juges, parce que cette fois, c'est les juges qui nous jugent. Ça fait une boule dans le ventre.
Quand je chante, par exemple, quand je me mets à chanter, il se met à chanter avec moi.
Ça nous est arrivé de faire du karaoké chez nous, mettre un disque, simplement que de la musique. Et pour en mettre un morceau, je pense que Nicole pouvait faire une chanson. Oui. Moi, j'ai fait une cassette de karaoké.
Viens te perdre dans mes bras.
Je peux faire à ce moment-là, toi tu fais les paroles et moi je fais simplement.
Alors, je ne sais pas si vous connaissez Frédéric François ou si Frédéric François est à l'écoute de France Inter, mais en tous les cas, le message est très très clair. Nicole souhaiterait le rencontrer, ça lui ferait très plaisir. Si jamais il veut nous contacter, on ne manquera pas de faire suivre à Nicole, que nous remercions, que vous entendez fredonner derrière moi, avec son mari, Philippe. C'était un reportage de Claire Otter. Demain, on les retrouvera, et puis on retrouvera aussi Nicole Diedrich, qui est une sociologue que nous aimons particulièrement et qui nous dira des choses tout à fait imprévues et inconnues sur le handicap en France, ce qu'elle appelle les naufragés de l'intelligence. Merci aussi à Petit Louis, à Jaco, à Coco et à Titi, technique aujourd'hui, Pascal Baldassari et Clotilde Thomas, assistante Joël Levert, le répondeur, c'est toujours Christophe Imbert qui s'en occupe. Musique Koy Nguyen, le répondeur de la basse, j'y suis, le numéro c'est le 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37, l'email de l'émission c'est daniel.mermet@radiofrance.com, je le répète, daniel.mermet@radiofrance.com, et c'est Antoine Chaot qui a réalisé cette émission modeste, géniale et musicale.
Ah, Jaco. Ah oui, hein.